Au Seigneur soit la reconnaissance pour ce grand privilège que nous avons de ne pas seulement être ici rassemblés en son nom, mais aussi là-bas, pour toujours, nous serons rassemblés dans la gloire. La promesse que Dieu a donnée dépasse le temps, va au-delà du temps, très loin au-delà du temps. Nous commençons ici avec Dieu, mais ça ne cesse jamais. C'est seulement le commencement, mais pas de fin. Les choses terrestres ont leur commencement, ont leur fin. Mais ce que Dieu fait commence, mais ne s'arrête jamais. Et nous nous réjouissons de cela, et nous savons aussi, par cela que nous avons reçu la vie éternelle. L'éternité n'a jamais commencé, c'est pour cette raison que l'éternité ne peut pas non plus cesser, avoir une fin. Hier, nous avons eu un temps merveilleux après la réunion. Je me suis attendu à trois ou quatre personnes qui viendraient pour la prière. Et c'est devenu 30 jusqu'à 40 personnes. Nous étions heureux de voir l'effet de la parole. Parfois, celui qui a apporté la parole a l'impression que la parole n'a pas été reçue. Mais quand on remarque plus tard ce que la parole a produit comme effet, alors on se réjouit encore plus, n'est-ce pas? Concernant cela, je voudrais bien, avec tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, j'aimerais encore aujourd'hui, maintenant, chanter ce cantique ensemble. J'ai l'assurance de mon salut, en allemand. Assurance merveilleuse, Jésus s'est donné à moi. Il n'y a pas plus important que cela, d'avoir cette assurance. Dans le peuple, on dit « le savoir est un pouvoir », mais ici, c'est plus qu'un savoir. C'est un savoir lié à notre salut, à un salut, c'est un savoir. C'est plus qu'un savoir, simplement comme ça. Laissez-moi commencer avec Estra. Nous avons affaire réellement à l'accomplissement des prophéties bibliques. Et ici, dans Estra, au premier chapitre, nous avons une parole très merveilleuse. Estra, chapitre 1, dès le verset 1. Ici, il est écrit, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui était venue par la bouche de Jérémie, l'Éternel inspira l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il proclame dans tout son royaume le décret suivant et qu'il le fasse connaître par écrit. Estra, chapitre 1, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et c'est lui qui m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judée. Maintenant, suit le verset important. C'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu qui habite à Jérusalem. Seulement cette pensée, je voudrais brièvement la relever, la souligner. Le prophète Jérémie avait prophétisé que Israël resterait en captivité 70 ans, ou bien alors 70 ans. Et quand ce temps avait atteint sa fin, cela est arrivé. Oui, qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous lisons très de manière si merveilleuse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui était venue par la bouche de Jérusalem, de Jérémie. Esra 1, verset 1. ce qui avait été prophétisé de la bouche de Jérémie. Quand le temps de l'accomplissement de cette prophétie était venu, était arrivé, Dieu le Seigneur, l'Éternel, a inspiré ce roi qui autrefois avait la royauté sur toute la terre. Il a inspiré son esprit et lui a mis dans son cœur ce qu'il devait faire. Le temps était arrivé de rebâtir le temple de l'Éternel qui avait été détruit. Et déjà, le décret a retenti et ici il est écrit si merveilleusement. C'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous, le verset 3, fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Je me le souhaite aussi à moi et à nous tous. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, que Dieu soit avec nous. Que son Dieu, que notre Dieu alors, soit avec lui, avec nous. Ensuite, ça continue. Et qu'il ne reste pas assis où il est, mais qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que c'était? Dans le temps dans lequel la parole de Dieu était en train de s'accomplir, s'accomplissait. C'est à ce moment-là que l'Esprit a commencé à agir. L'Esprit de Dieu. Et là, si des rois terrestres sont nécessaires, Dieu même peut à ce moment-là disposer de comme il veut. Ce qui est important ici doit être la chose suivante. Que Dieu avait choisi un lieu où son arche sainte, son lieu de demeure avait être édifié. L'endroit où le peuple d'Israël était à la maison, il a choisi Jérusalem comme le lieu sur terre où il voulait se manifester. Et ils n'avaient pas le droit de bâtir la maison là où ils voulaient, quelque part. Mais ils devaient retourner, ramener là où la maison existait auparavant. Ils ont dû enlever les vieux débris laissés par la maison démolie, retrouver les anciens murs de fondation et reconstruire sur les fondements d'origine, nouvellement, la maison. La même chose nous concerne notre temps et concerne l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. La parole de Dieu est sortie, c'est vrai, de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion et notre Seigneur et les apôtres travailler là, agir là, et c'est de Jérusalem que le vrai évangile est sorti. Maintenant, le temps de la captivité babylonienne est passé. Là, je pense au livre de Dr. Martin Luther avec le titre « La fin de la captivité babylonienne ». Encore plusieurs centaines d'années sont passées, mais maintenant, cette fin de la captivité babylonienne est vraiment arrivée. Le joug romain est brisé. Des hommes qui appartiennent à Dieu sortent, se lèvent et reviennent à l'annonce, à la prédication originelle des apôtres et des prophètes. Ils se débarrassent de tout ce qui les a chargés durant toutes ces années et veulent être édifiés pour devenir un temple saint en esprit. Et ainsi apporter les sacrifices justes, agréables à Dieu. Ce message est adressé à nous aujourd'hui. Si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, Dieu n'a pas besoin de gens qui suivent les autres. Il a besoin de gens qui le croient, qui lui font confiance, qui lui sont obéissants et qui le suivent. Si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel, que son Dieu soit avec lui. Vous savez, dans Néhémie, chapitre 8, il est parlé ensuite de l'inauguration, et Dieu a accordé sa grâce pour que cette maison soit bâtie. Et c'est écrit dans Néhémie, chapitre 8, dans la dernière partie du verset 9, Néhémie chapitre 8, verset 9. Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. La deuxième partie du verset 9. Ne soyez pas tristes et ne pleurez pas. Car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Ensuite, la deuxième partie, encore du verset 11. Soyez tranquille, car ce jour est saint, et ne vous découragez pas. C'était un travail difficile, fatigant. Persécution à droite, à gauche, adversité à droite, mais Dieu était avec eux pendant la construction et les a aidés parce que c'était l'accomplissement de ses promesses. Et l'heure dans l'histoire du salut a été faite. L'heure de Dieu était là, a sonné, et c'est peut-être raison, avait sonné, et c'est peut-être raison que ce jour était saint à l'Éternel, parce que parmi son peuple, conformément à sa parole, il pouvait agir et accomplir ce qu'il avait fait annoncer. Laissez-moi ici dire cela avec toute la clarté. Dieu ne s'intéresse pas de tout ce qui se passe dans les religions et de toutes ces sociétés religieuses. Il cherche des hommes à qui il peut lui-même se révéler et révéler sa parole. Il cherche des hommes qui deviennent sa propriété, sa possession, qui ne sont pas en train de faire de la religion, mais qui croient de tout leur cœur à Dieu et aussi mettent en pratique ce qu'il a dit et prennent part à ce qu'il fait. Le monde entier est plein de religions. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un ambassadeur plutôt, mieux dit, d'un pays du bloc de l'Est. Et cet homme avait plusieurs choses à me dire, justement en ce qui concerne la vie religieuse. Et on voit comment est-ce que le mélange entre la religion et l'État n'est pas la chose juste. Si des hommes qui sont la propriété de Dieu, qui appartiennent à Dieu, qui vraiment servent Dieu, alors ils ont assez à faire sans politique, n'est-ce pas? Aussi sans une politique pieuse, sans une politique religieuse. Vous savez ce que je veux dire. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que Dieu, sur terre, a un peuple, a une église, il a un programme, il a des intentions. Et que nous puissions reconnaître et que nous avons la grâce de reconnaître ces choses et nous laisser insérer dans ce programme divin. Il est écrit dans Ézéchiel, au chapitre 43, à partir du verset 4, les choses suivantes. Ézéchiel, chapitre 43, verset 4. « Puis lorsque la gloire de l'Éternel eut pénétré dans l'enceinte du temple par la porte orientée vers l'est, la puissance de Dieu me souleva et me fit entrer dans le parvis intérieur. Et voici que le temple était rempli de la gloire de l'Éternel. J'ai alors entendu quelqu'un s'adresser à moi depuis le temple, alors que l'homme se tenait encore à côté de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, voici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds où j'habiterai pour toujours au milieu des enfants d'Israël. » Où j'habiterai pour toujours au milieu des enfants d'Israël. Oh, quelle parole! Ce lieu était sur terre. Et c'est peut-être raison que malgré tout, ici le Seigneur dit, voici le lieu, le verset 7, de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds. Dieu n'habite pas seulement au ciel. Dieu habite aussi sur terre, dans le cœur de ceux qui sont devenus sa propriété. Nous formons ensemble le corps du Seigneur, le temple de Dieu. Et ici, nous lisons que la gloire de l'Éternel entra dans le temple. Le prophète dit exactement d'où elle vint. Il pouvait décrire et dire Elle est entrée par la porte orientée vers l'est. Le verset 4. Donc, quand nous lisons dans l'Ancien ou alors dans le Nouveau Testament concernant la gloire de l'Éternel, alors ce n'est pas seulement un mot, une parole. Cela était une réalité divine sur terre. La gloire de l'Éternel était dans cette nuée surnaturelle. La même gloire de l'Éternel était à voir. Alors que l'annonce avait été donnée, aujourd'hui, le Sauveur vous est né. Là, la gloire de l'Éternel, c'est comme ça que nous le lisons dans les évangiles, les a couverts. Qu'est-ce que c'était? La gloire de l'Éternel était la nuée surnaturelle, la scintillante, la lumière brillante, la nuée, le nuage dans lequel Dieu tout était enveloppé dans l'Ancien Testament. La nuée de gloire a apparu à Paul sur le chemin de Damas et il disait que quand il a vu cette lumière brillante, il lui a demandé « Mais qui es-tu ?» Et la réponse a été « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il peut se révéler et il s'est révélé. Et il peut de différentes manières se révéler. Bien sûr que sa révélation personnelle a eu lieu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais Dieu, n'est-ce pas, s'est révélé de manière surnaturelle dans le feu, dans la nuée et dans la gloire. Et c'est ainsi que nous pouvons le lire dans plusieurs Écritures. Ici, je voudrais le souligner, le relever. Il nous est dit, j'ai alors entendu quelqu'un s'adresser à moi depuis le temple. Il relit le verset 6, d'Ézéchiel 43. Alors que l'homme se tenait encore à côté de moi. Maintenant le verset 7. Il me dit, fils de l'homme, voici le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds où j'habiterai pour toujours au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que Dieu n'a pas déjà annoncé à l'avance? J'habiterai parmi eux et je serai leur Dieu. Je leur accorderai un nouveau cœur et un nouveau esprit. Dieu a accordé cette promesse. Et ce qui est merveilleux ici est la chose suivante, doit être la chose suivante, que le Dieu Tout-Puissant descend sur cette terre et parle à des hommes qui sont indignes, des hommes qui s'égareraient de leur cœur si Dieu ne les ramènerait pas. Et malgré tout, Dieu se révèle toujours de nouveau. Et il a des hommes qui reconnaissaient et qui expérimentaient sa manifestation. Le lieu de son trône était son temple dans lequel son peuple se rassemblait. Et venait ainsi dans sa présence pour écouter sa parole. Et aujourd'hui, le lieu de son trône, le lieu de sa demeure est parmi nous, là où nous nous rassemblons et nous voulons avec crainte venir devant sa face. Et nous devons venir avec la crainte juste devant Dieu et sa parole et savoir qu'il a promis d'être parmi nous, d'être au milieu de nous. Oui, de marcher même parmi nous. Où est-ce qu'il doit marcher aujourd'hui? Parmi les sept chandeliers d'or. C'est ainsi que nous le lisons dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Et ce chandelier représente l'Église du Nouveau Testament. Donc, où est-ce que le Seigneur marche? Où est-ce qu'il parle? Où est-ce qu'il se révèle? Où est-ce qu'il se manifeste? Dans son Église. Où est son Église? Qui en fait partie? Il y a des centaines de différentes directions. Et ça aussi, il faut que cela soit dit une fois clairement. L'Église du Dieu vivant n'est pas une institution appelée à l'existence par l'homme, créée et fondée par l'homme. Elle n'est pas non plus une association enregistrée. Elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant de laquelle Jésus, dans Matthieu 16, disait, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre elle. » L'église du Dieu vivant est là où s'accomplit ce que le Seigneur lui a promis. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Éphésiens 4, verset 11. Dieu, dans l'église, a établi des apôtres, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme bergers, comme docteurs, comme évangélistes. L'église du Dieu vivant est là. Elle est là où il y a un organisme vivant et des croyants qui se retrouvent pour écouter la parole du Seigneur, pour le voir marcher et pour le voir au milieu de nous vivre et où il peut nous voir, recevoir et accepter ce qu'il nous dit dans l'obéissance de la foi. Là où il peut établir dans l'église, et c'est-à-dire les services qu'il l'a donné pour l'édification, déterminé pour l'édification de l'église. Comment est-ce que tout est si nous voulions le comparer avec l'église primitive? Comment est-ce que les choses ont changé aujourd'hui dans le déroulement de l'histoire de l'église? La chose établie, originelle de Dieu et ordonnée de Dieu, par Dieu, a été ôtée. C'est devenu des institutions humaines, toujours de nouveau, des différentes directions de foi ont apparu. Il n'y a qu'une seule direction, unique, et il faut qu'elle soit la direction divine. Si elle est la direction divine, alors elle est conforme à sa parole. Et alors nous avons à nous diriger d'après la parole de Dieu. Ce n'est pas nous qui dictons à Dieu ce qu'il a à faire, mais nous le laissons nous dire ce que nous avons à faire. Et ici, il a été dit au prophète, fils de l'homme. Voici le lieu de mon trône. C'est là que Dieu règne, trône, habite, marche, parle. C'est là qu'il agit. Et là où tout cela est possible, a lieu. C'est là qu'on peut parler de l'église du Dieu vivant. C'est là qu'il y a des hommes qui sont joints à cet organisme vivant. L'église du Seigneur est vraiment, n'est pas une association, une association pieuse, une direction de foi, mais des véritables croyants qui ont cru, qui sont joints ensemble et qui veulent marcher entreprendre tout le chemin ensemble avec Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur a toujours un reste qu'il a laissé, qui le croyait et qui lui faisait confiance. C'est ainsi que ce sera aussi maintenant. C'est ainsi que c'était dans chaque réveil spirituel et renouvellement dans les différents âges. Pas la masse, mais les individus qui ont été appelés à sortir de la foule et qui ont été retirés. Ce sont ceux-là qui se sont retrouvés devant Dieu pour écouter ce qui leur a été prêché de la parole de Dieu. Dans Romains, le chapitre 11, à partir du verset 4, nous lisons les choses suivantes. Romains, chapitre 11, dès le verset 4. Mais quelle est la réponse divine à son égard? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même maintenant aussi, en notre temps, il y a un reste selon l'élection divine de la grâce. Mais si c'est par la grâce, ce n'est plus à cause des œuvres. Autrement, la grâce ne sera plus la grâce. Brièvement et clairement, Paul a exposé comme c'était du temps d'Élie, ça a été autrefois dans son temps, et cela est encore maintenant dans le temps présent, en notre temps. Il y a un reste d'élection divine de la grâce. Il y a un reste selon l'élection divine de la grâce. Qu'est-ce que c'est que l'élection divine de la grâce? Peut-être une petite pensée là-dessus. Vous savez que Dieu sait toutes choses à l'avance. Avant même la fondation du monde, il a su qui accepterait la grâce, le salut, et qui ne l'accepterait pas. Alors il pouvait déjà, même avant même la fondation du monde, inscrire les noms de ceux qui croiraient dans le livre de l'agneau immolé. Avant même la fondation du monde. Je crois que Dieu, dans ces jours, a un reste aussi, qui écoute son appel, qui réagit, qui répond, qui se retrouve devant la face de Dieu pour se détacher, se détourner et sortir de tout ce qui ne vient pas de Dieu et se conformer à la parole de Dieu. Aucun homme ne peut être conforme à Dieu et à sa parole si ce n'est qu'il est en accord avec sa parole. L'accord avec Dieu a lieu sous la vraie et juste prédication de la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, où les hommes écoutent la parole de Dieu et la reçoivent dans la foi, alors l'Esprit de Dieu commence à agir dans leur cœur. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils reconnaissent la vérité et que cette vérité divine reconnue par eux les libère, les rend libres de toute erreur et tromperie humaine. Car c'est à ce moment-là seulement qu'ils sont capables de discerner l'erreur, la tromperie, aussi la tromperie religieuse dans laquelle ils se sont trouvés. Et de discerner les interprétations et tout ça, les mensonges. Dieu a un chemin pour parler à l'homme et cela a lieu toujours par la parole. Donc si je veux me faire comprendre, alors j'utilise ma voix pour parler. Alors quand Dieu veut nous faire comprendre quelque chose, alors il parle avec nous. Alors il parle avec nous. Et il ne parle pas par cœur, il parle en faisant lire ce qu'il, n'est-ce pas, veut nous dire. C'est-à-dire qu'il nous révèle ce qu'il a laissé déjà écrire dans sa parole, ce qu'il a déjà dit dans sa parole. On n'a plus besoin d'écrire une nouvelle Bible. Ce n'est pas nécessaire. On a seulement besoin qu'il y ait des hommes qui sont nés de nouveau, comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, dans la parole d'introduction. Si quelqu'un est en Christ, alors il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses qui ne viennent pas de Dieu, les choses terrestres, les choses charnelles qui résistent à l'Esprit de Dieu sont passées. C'est pour cette raison que Paul dit aux Corinthiens, l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'Esprit. Elles lui sont même une folie. Nous devons d'abord par l'Esprit de Dieu naître de nouveau pour seulement par la nouvelle instance avoir accès aux choses spirituelles. Sinon, elles resteront pour nous une folie. Selon la parole du Seigneur, aussi dans notre temps, Dieu a un reste comme il avait autrefois et comme il a fait autrefois. Romains 11, verset 5. N'êtes-vous pas heureux d'appartenir à ce reste? Dieu, d'ici et là, de partout, nous a appelés à sortir. Il savait. Aussi vrai, dès qu'il parlera avec nous, ils nous le croiront. La chose la plus grave qui peut arriver à un homme, c'est de ne pas croire Dieu. C'est peut-être raison que cette parole dans l'évangile de Jean est écrite. Si nous ne le croyons pas, nous mourrons dans nos péchés. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. Ici, il est écrit. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. L'homme ne vit pas, ne meurt pas la deuxième mort parce qu'il a péché. Non, il meurt de la deuxième mort comme c'est écrit dans l'Apocalypse, comme c'est désigné dans l'Apocalypse seulement. Parce qu'il ne croit pas que Jésus a ôté de nous les fautes et les péchés et les a expiés. Et nous a restitué la justice de Dieu, comme si nous avions jamais péché. Nous sommes devant Dieu. Un homme qui, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, accepte le salut, la rédemption, et l'expérimente personnellement, et l'a expérimenté personnellement, est devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché, comme s'il n'avait jamais transgressé la parole de Dieu. Aux yeux de Dieu, il est parfait, justifié. Vous pouvez le comprendre? Comprendre? Pour nous, c'est un peu trop haut, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que c'est, réellement. Une justification totale divine qui, par le sacrifice de la mort de Jésus-Christ, est accordée à l'homme. C'est peut-être raison que la foi est nécessaire pour notre salut, pas les œuvres, pas ce que nous pouvons faire, pas des cours religieux ou bien des bonnes œuvres, mais la foi en Jésus-Christ qui, à notre place, sur la croix, à Golgotha, mourut. Et c'est peut-être raison que le Seigneur disait, « Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il est le « Je suis » et il le demeurera dans toute l'éternité. Il est venu pour nous accorder la vie éternelle par sa grâce. Est-ce que vous pouvez tous, de tout votre cœur, croire en lui? Est-ce que vous pouvez de tout votre cœur croire qu'il est vraiment celui, encore aujourd'hui, qu'il est encore aujourd'hui le même, pas qu'il était, mais qu'il est encore aujourd'hui le je suis, qu'il est encore aujourd'hui ce qu'il est, était et est, et sera, et que nous pouvons aujourd'hui recevoir la réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que justement, après cette réunion, nous aurons un service de baptême. J'aimerais rapidement aller dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, et ensuite lire les différents versets bibliques aussi dans les Actes des Apôtres. Marc 16, verset 14. Ici, il est écrit la chose suivante. Mais plus tard, il se révéla aux 11, comme ils étaient à table, et il réprimanda leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Vous voyez de quoi il s'agit ici? Il s'agit de la foi. On n'a même pas voulu croire, même quand des témoins étaient venus et avaient dit « Nous l'avons vu comme ressuscité. » Et cela peut exister encore aujourd'hui, qu'il y a des hommes pour qui c'est difficile, en ce moment, difficile, si on leur dit que nous avons expérimenté Dieu, si on leur dit que nous sommes venus à la foi, que nous avons cru, alors qu'il y en a qui s'offensent et disent, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pas qui sommes-nous, mais qui? Ou bien moi ou toi, c'est pas la question. La question, c'est, elle est à poser très différemment. Qu'est-ce que nous avons? Et là, tout s'inclut avec l'offre de grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous en avons fait? Le Seigneur fait que nous préparer la table. Mais manger et boire, nous devons le faire nous-mêmes. Nous-mêmes. Et la plupart des hommes ne mangent pas et ne boivent pas parce qu'ils ne voient pas l'œuvre, l'offre de grâce de Dieu et ne la prend pas assez au sérieux. Il réprimanda leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu après sa résurrection. Il relit le verset 14, la deuxième partie. Ensuite, le verset 15 est écrit. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez le message du salut à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. La foi est la condition pour être sauvé. La foi est la condition pour être béni, pour recevoir le pardon de ses péchés, le salut, la guérison, tout ce que Dieu en Christ Jésus nous a préparé. Est sur la base de la foi, est placé sur la base de la foi. Vous savez que dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, le Seigneur, n'est-ce pas, est décrit dans ses souffrances. Et c'est justement là qu'il est dit au premier verset, Ésaïe 53, verset 1, « Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel s'est-il manifesté ?» La question est posée en ce qui concerne la foi. À chaque fois que l'homme le Seigneur parlait avec des hommes, il a demandé « Crois-tu ? Crois-tu que je peux te le faire ? Que je peux le faire ?» Et quand la personne concernée répondait par « Oui, je crois », alors le Seigneur a encore parlé et a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi, comme tu as cru. » La foi en Dieu et dans la parole de Dieu, en sa véracité, en ses promesses et leur accomplissement, est nécessaire pour notre salut. L'incrédulité est comme le péché de la sorcellerie. Les hommes sont dans les liens de l'incrédulité parce qu'ils ne peuvent pas librement accepter et recevoir ce que Dieu leur offre et a promis. Qu'aujourd'hui, par cette simple annonce de la parole, la foi vivante en Dieu et en sa parole, en l'évangile de notre salut, soit produite en nous par le Saint-Esprit, en tous ceux qui ont écouté la parole. La parole ne doit pas et ne reviendra pas sans effet à Dieu. Ne reviendra pas à vide, mais elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée et exécutera sa volonté. Ésaïe a dit, qui a cru notre message, qui a cru à notre message, à notre prédication, à notre évangile, et a crié à qui le bras de l'Éternel s'est-il manifesté? Déjà depuis des années, j'ai dit, tous ceux qui croient Dieu, qui ont cru Dieu, à eux, le bras de l'Éternel s'est manifesté. Car nous voulons que le bras de l'Éternel nous soit manifesté. Alors si nous le voulons, nous devons croire Dieu, pas croire à une institution, croire à un homme. Non, nous devons croire alors Dieu pour que son bras nous soit manifesté. Je pense que ce sera pas facile pour nous, ce sera pas difficile pour nous. Pas seulement de croire à l'existence de Dieu, ça ne suffit pas. Tous les musulmans, tous, beaucoup sur terre le font. Mais le salut consiste à ce que, être sauvé consiste à ce que nous puissions croire que le seul Dieu, vrai, véritable, en Jésus-Christ, son Fils seul engendré par lui, lui personnellement, comme sauveur du monde entier, ici sur cette terre, dans la chair humaine, s'est révélé, s'est manifesté. Et que c'est ainsi que sur cette terre, dans ce corps, une fois pour toutes, par le sang saint, il a payé le prix pour nos péchés et nous a ainsi accordé le pardon avec lui. Celui qui peut croire à soi peut être sauvé sans avoir encore besoin d'aller à sa religion. Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit, mais je crois que je sais que cela est vrai. Pas une institution, mais vraiment la foi. Oh, si le monde entier pouvait encore une fois l'entendre et l'apprendre, que tout ce qui vient de l'homme ne peut pas subsister devant Dieu et en fait aboutit dans une propre tromperie de soi-même. Seulement ce que Dieu lui-même a appelé à l'existence et a ordonné et a créé, c'est seulement ça qui pourra et qui subsistera devant lui. Nous devons entreprendre la voie divine car c'est elle seule qui nous mène au but, qui nous fait atteindre le but. J'espère que nous le comprenons bien. Il leur a donné l'ordre d'aller dans le monde entier et annoncer le message du salut au monde entier. Celui qui croit et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui sera resté incrédule sera condamné. Il relit Marc 16, verset 16. Aujourd'hui, nous adressons cette parole à tous ceux que le Seigneur nouvellement ajoute à son peuple et joint. Nous nous réjouissons de cela. Encore, c'est le temps de la grâce. Le Seigneur, notre Dieu, appelle encore. Et dans les Actes des Apôtres, nous avons encore à lire, et c'est-à-dire dans le chapitre 2, la Pierre et tous ceux qui étaient avec lui ont dit, ont vécu quelque chose de merveilleux. Beaucoup se sont ajoutés, sont venus et ont cru. Et ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 38, peut-être que nous lisons le verset 37 avec. Lorsqu'ils entendirent cela, ce fut comme un coup de poignard dans leur cœur. Et ils se tournèrent vers Pierre et les autres apôtres et demandèrent, « Que ferons-nous, chers frères ?» Pierre leur répondit, le verset 38 d'Actes apôtres 2, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Il leur adressa aussi des paroles pressantes en bien d'autres termes, les exhortant, sauvez-vous de cette génération perverse. Puis ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ainsi environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Quel effet merveilleux le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Vous savez très exactement, ce n'était pas seulement la prédication qui avait été tenue, quoiqu'elle fût courte et brève. Mais c'était le Saint-Esprit qui était répandu comme après qu'un bruit impétueux était descendu des cieux et que les hommes étaient venus en foule là dans le lieu parce que Dieu d'une manière surnaturelle agissait. Quand Dieu d'une manière surnaturelle commence à agir, alors l'Esprit de Dieu est sur l'assemblée et il convainc du péché et de l'incrédulité et ordonne toutes les choses et les classes selon les Écritures d'une manière que les hommes viennent à la foi en Jésus-Christ, pas de consulter la chair et le sang, pas de prendre des cours dans un catéchisme et de passer et d'adhérer d'une religion à une autre, mais l'offre du salut en Jésus-Christ notre Seigneur nous est apportée et nous devons, comme autrefois le peuple d'Israël, après la captivité, nous ne devons pas retourner à Rome, mais à Jérusalem, là où tous les prophètes et tous les apôtres au nom du Seigneur ont parlé. C'est là où Dieu a confirmé sa parole. C'est là que nous devons revenir au lieu qu'il a désigné comme le lieu de sa demeure. Il a dit, c'est le lieu de mon trône et là où mes pieds sont. Donc c'est là que le Seigneur a marché à Jérusalem. Même dans la chair, comme un homme, il a marché à Jérusalem. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu, dans ce temps, encore une fois, dans sa forme, dans sa clarté originelle, comme une vérité divine qui libère, il nous l'a révélé. Le temps de l'erreur, de la tromperie et de l'obscurité et des ténèbres sont passés. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. C'est ainsi que déjà Ésaïe le dit dans le chapitre 9. Et nous aussi qui étions assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, nous avons vu une lumière brillante. Et Paul, dans 2 Corinthiens, il parle de cette lumière. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, ici il est écrit au verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Parce qu'en eux, le Dieu du siècle présent a obscurci l'esprit des incrédules, afin que la lumière éclatante du message de salut de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu ne brille pas jusqu'à eux. Car ce n'est pas nous-mêmes que nous proclamons, mais le Christ Jésus comme le Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a commandé que la lumière brille des ténèbres, c'est lui qui a fait aussi briller la lumière dans nos cœurs, afin que la connaissance de la gloire de Dieu brille sur le visage du Christ. Quelle parole puissante! Vous remarquez déjà, il s'agit du centre même de la chose, il s'agit du Sauveur et des rachetés, du Rédempteur et des rachetés. C'est de ça qu'il s'agit, du Sauveur et de ceux qu'il a sauvés. Pas d'interprétation, mais de connaissance ou bien d'enseignement, mais de la connaissance de Dieu lui-même qui brillait pour nous sur le visage du Christ et qui brille encore aujourd'hui. L'avons-nous vu tous? Il y en a qui c'est pour qui c'est une énigme encore, qui est Jésus ou bien qui était Jésus. Pour nous, il est celui dont il est décrit ici. Il est dit ici, nous vous prêchons Jésus-Christ comme le Seigneur. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Verset 5, 2 Corinthiens 4. C'est comme ça que nous pouvons le lire aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Que Dieu aujourd'hui accorde sa grâce, que tous ceux qui se sont ajoutés nouvellement comprennent que ici, ce n'est pas une adhésion possible à une communauté, à une congrégation de foi. Nous n'avons pas ici de carte de membre ou bien de livre de membre. Ici, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a que des membres. Le corps de Christ est constitué que de membres, pas d'adhérents. Comme une association est constituée d'adhérents, mais l'Église du Dieu vivant est constituée de membres. Qui sont joints les uns avec les autres et qui ont été joints les uns avec les autres, qui sont une partie l'un de l'autre. Et Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, ils lui sont soumis, lui en tant que la tête et le chef du corps, que cela plaise encore à Dieu, avec l'épée de son esprit, frappée dans les religions pour faire sortir les hommes de cette captivité religieuse et pour les amener dans la liberté divine. Il est encore écrit que tous ceux que le Fils libère, ils sont réellement libres. Nous n'avons pas besoin encore de rester esclaves et de faire ce que les hommes nous ordonnent de faire. Et cela toute notre vie. Non. Combien existent? Oui, ce sont des millions et il y a eu déjà des milliards qui, durant toute leur vie, il leur a été dicté ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Et après qu'ils soient décédés, les mêmes personnes qui leur a, n'est-ce pas, donné tous ces fardeaux de préceptes, ils ont eux-mêmes dû constater que ceux qui sont décédés ne sont pas sauvés, mais qu'ils sont allés au soi-disant purgatoire. Et alors, ensuite, ils ont dû apporter la mauvaise nouvelle aux parents, qu'il faut que les messes soient payées pour qu'on prie pour la personne, pour qu'elle puisse passer au paradis. Quel mensonge! Et cela au nom du Seigneur et au nom de Dieu! Ce grand mensonge sur cette terre, que Dieu puisse en mettre une fin, en faire une fin. Chaque homme a le droit, une fois dans sa vie, d'écouter la vérité. Et encore une fois, nous l'avons écouté aujourd'hui. Chacun peut faire ensuite ce qu'il veut avec ça. Moi, personnellement, je vous conseille que nous puissions nous mettre du côté de Dieu, le croire et lui faire confiance. Et alors, ensuite, faire ce qu'il a dit. Tous ceux qui sont venus à la foi, tous ceux qui ont cru, qui avaient cru, se sont laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, accepté la parole et qui l'ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont cru que leurs péchés sont pardonnés par le sang de l'agneau. Et comme confirmation qu'ils croient que leurs péchés sont pardonnés, étaient pardonnés par le sang de l'agneau, ils se sont ensuite laissés baptiser en faisant avec Dieu l'alliance d'une bonne conscience pour confirmer justement qu'ils croient que leurs péchés leur ont été pardonnés aujourd'hui. C'est la même chose. tous ceux qui peuvent croire que Dieu, vous tous qui pouvez croire que Dieu en Christ vous a pardonné, acceptez cela aujourd'hui comme un don de grâce de Dieu. Un don est proposé, est offert, mais il doit être accepté, reçu. Acceptez cela aujourd'hui. Acceptez, recevez ce cadeau, cette offre. Et alors, ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, que cela puisse s'accomplir. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en son nom. Aujourd'hui, nous avons parlé de la foi. Celui qui croit ne doit pas mourir dans ses péchés. Celui qui croit voit celui qui est mort pour nos péchés. Et écoute, cet acquittement puissant, c'est accompli. Je t'ai sauvé, je t'ai racheté, je t'ai appelé de ton nom. Tu m'appartiens. C'est un joyeux message, un message qui sauve, une bonne nouvelle. Accepte-le aujourd'hui. La plus grande offre qui peut être faite à un homme sur terre, c'est cette offre de grâce divine, du pardon, du salut et de la vie éternelle. Accepte-la. Dieu fait ce qu'il dit. Celui qui croit repart libre parce qu'il reconnaît que notre condamnation est tombée sur l'agneau de Dieu pour que nous ayons la paix et que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Guéris. Nous pourrions continuer avec des versets bibliques et des prédications. Je pense que nous voulons maintenant remettre tout entre les mains du Seigneur, que il puisse en nous laisser agir cette parole que nous avons écoutée. Et il le fera. Il le fera. Croyez-la et il produira en vous son effet. Cela aura lieu avec vous pour la gloire de son nom et pour votre salut, pour votre délivrance et pour votre salut éternel. Amen. Nous levons-nous pour la prière. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que dans la prière, nous recueillons devant le Seigneur, je voudrais demander, est-ce que ceux qui ont consacré leur vie à Dieu auraient le courage de lever leurs mains et pour confesser par cela qu'ils veulent marcher le Seigneur, tout le Seigneur avec le Seigneur, le chemin avec le Seigneur, et qu'ils sont prêts aussi à se laisser baptiser, cela en son nom. Aujourd'hui, ne croyez pas seulement en son nom, mais aujourd'hui, que son nom soit prononcé sur vous, invoqué sur vous dans l'eau du baptême, en ce que aujourd'hui, dans le nom précieux, le nom glorieux de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, vous soyez immergés dans l'eau. Si vous l'aimez et avez accepté son offre de grâce et êtes prêt à consacrer au Seigneur entièrement et totalement votre vie, à lui appartenir, et que vous avez confessé, regretté vos péchés, et que vous avez ressenti au fond de votre cœur un regret, et que l'Esprit de Dieu a pu vous convaincre et vous conduire à la repentance, et que vous avez reconnu que vous étiez séparés de Dieu, perdus, sans espérance dans ce monde. Et ensuite, un pas de plus, vous allez et reconnaissez que Dieu était en Christ et qu'il vous a tendu la main de la réconciliation et le sang de la réconciliation, il a versé pour vous. Il a répandu pour vous et vous l'acceptez maintenant dans la foi. Alors, levez vos mains alors que tous ont courbé les têtes et fermé les yeux et gardent les yeux fermés. Combien sont ici? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les frères là-bas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse partout, les mains se lèvent, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous, tous ceux qui ont pris leur décision pour marcher désormais en nouveauté de vie avec le Seigneur sur son chemin. Loué soit le nom du Seigneur. Nous levons encore les mains tous et chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis. sans rien de moi. C'est pas ma force, mais la tienne, et seulement la tienne. Ton sang me lave du péché, ô Dieu. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père céleste, tu as vu les mains et les cœurs. Seigneur fidèle, nous te consacrons tous ceux qui se sont ajoutés, tous nos frères et nos sœurs qui se sont ajoutés, qui sont venus, et nous te demandons que tu puisses, dans la grâce, les accepter. Pénètre-les d'une joie céleste, de ta paix divine, pour que, au fond de leur âme, ils puissent savoir qu'ils sont passés de la mort à la vie et que une toute nouvelle vie, a commencé pour eux, une vie avec Dieu, dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, que tu puisses aller devant eux, leur frayer le chemin et sois leur force à chaque instant de leur vie. Marche avec eux, même si ça passe par des vallées obscures. Seigneur, accompagne-les. Oh Seigneur fidèle, nous croyons en raison de ta parole, sur la base de ta parole que tu les as agréés. Car tu as dit, Père, tous ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai pas, je ne rejetterai personne. Car tous ceux que le Père m'a donnés viennent à moi et je leur accorde la vie éternelle. Oh Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous croyons que c'est ainsi, tel que tu l'as dit. Et que maintenant, ils expérimentent le pardon, la grâce et la vie éternelle. Ils ont reçu le pardon, la grâce et la vie éternelle, car ils sont venus à toi. Je te remercie de tout mon cœur maintenant. Toi, le Dieu vivant, de ce que tu nous as rendu ta parole si vivante, réelle. Seigneur, agis par ton Saint-Esprit d'une manière puissante parmi nous. Oui, dans notre pays, oui, sur toute la terre. Sauve encore beaucoup et manifeste-toi, révèle-toi à ceux qui te cherchent et à tous ceux qui te cherchent, qui demandent après toi que tu puisses te laisser trouver d'eux. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.